secteurs d'activité, la propreté, le chauffage. Propreté, c'est collecte des ordures ménagères, chauffage, c'est production d'énergie, production de chauffage. Si vous raisonnez stratégiquement, secteur par secteur, certes, vous pouvez faire l'intégration verticale horizontale. Si vous raisonnez en réseau, vous allez essayer de combiner les secteurs. Et vous allez créer, par exemple, une filière globale de traitement et de valorisation des déchets. Collecter les déchets, les recycler, les valoriser sous forme de chauffage. D'accord ? Aucune entreprise au monde n'est capable de posséder toutes ces compétences en interne. Mais pour certains projets, elle peut trouver des partenaires adaptés et mettre en œuvre ce type de projet valorisant pour le client et valorisant pour les partenaires. Pourquoi ? Parce que les entreprises de collecte ont trouvé de nouveaux débouchés, les entreprises de chauffage de nouvelles ressources et de nouveaux débouchés. Donc si je reprends mon schéma de départ, vous pouvez avoir des formes de partenariat classiques sous l'angle vertical, dans une chaîne de valeur, sous l'angle horizontal, entre concurrents, et vous pouvez avoir des formes de partenariat un peu plus originaux, qui transcendent une chaîne de valeur et qui vont être basés sur les rapports de confiance ou les relations privilégiées qu'entretiennent certaines firmes. C'est un peu le même cas pour des réseaux d'acteurs, d'anciens, vous prenez le réseau des anciens élèves de Polytechnique. Quand ils sortent de l'école, ils ne sont pas obligés de travailler tous dans le même secteur d'activité ou d'occuper la même fonction. Et pourtant, la solidarité s'exerce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un ancien polytechnique qui travaille dans l'automobile peut très bien aider un ancien polytechnique qui est dans l'aéronautique. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne en réseau. Tout simplement. Et donc là, ça permet aussi d'avoir une économie de moyens extraordinaire. Au lieu de racheter des sociétés ou de vous développer en permanence, vous pouvez rester petit, flexible et adaptable tout en ayant autour de vous des partenaires spécialisés et donc de répondre sur mesure à des projets ou à des besoins. Donc vous avez, si vous recherchez les effets de taille, vous allez nouer des partenariats horizontaux, des effets de complémentarité ici, et si vous voulez valoriser entre deux secteurs, vous allez rechercher des partenaires de façon transversale. Donc dans tous les cas de figure, vous aurez une organisation un petit peu pâte à modeler, qui permet d'éviter de tomber dans la fusion-acquisition et donc dans la rigidité, ou de tomber dans l'opportunisme dans le marché. Parce que si vous allez chercher les partenaires sur le marché, les sous-traitants chinois ou indiens, vous n'êtes pas sûr qu'en retour, ils ne fassent pas de contrefaçon ou qu'ils détournent une partie des ressources du savoir-faire à leur propre profit. D'accord ? Bon, mais là c'est pareil. Quelle est la difficulté quand on raisonne de cette manière et donc quand on parle de stratégie de coopération, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la coopération devenant récurrente et durable, on a des frontières invisibles qui se tissent. Bon, un peu comme dans un amphithéâtre, vous avez des affinités invisibles qui se tissent entre les étudiants et des phénomènes communautaires à l'intérieur d'une promotion. Bon, peut-être que les échanges de services au début sont transformés en solidarité, en affinité. Le problème, c'est comment arriver à valoriser et développer ce type de réseau. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui oblige les entreprises du réseau à fonctionner avec la préférence communautaire ? Rien. Qu'est-ce qui empêche les entreprises du réseau de se concurrencer ? Rien non plus. Donc c'est un édifice, encore une fois, très fragile, où les entreprises sont à la fois autonomes et complémentaires. elles ont besoin des autres, mais en même temps veulent décider de façon indépendante et seule de leur avenir. Mais pour cela, elles ont besoin des autres. Vous avez un exemple intéressant, c'est la communauté européenne. Si vous prenez l'Europe des 25, des 27 aujourd'hui, c'est un réseau de pays. C'est une belle image pour définir le concept de réseau. C'est des pays qui ont mis en place des accords de coopération privilégiés, qui restent indépendants sur certains sujets et sur d'autres sujets, qui partagent des règles communes pour valoriser leur complémentarité. Et vous voyez bien toute la difficulté. Quand il faut parler d'une voix unie, c'est la cacophonie. Quand il faut parfois revendiquer l'autonomie, c'est parfois au détriment de celle des partenaires. Donc c'est compliqué à gérer. Et pourtant, quand ça fonctionne, ça permet d'avoir tous les avantages du marché et tous les avantages de l'intégration hiérarchique. Mais il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, c'est difficile. D'accord ? Au-delà de la théorie, il y a la mise en pratique. Les conflits d'intérêts, les rivalités, les pouvoirs. D'accord ? Quand vous êtes dans une pyramide avec le pouvoir centralisé, vous avez déjà ces rivalités, ces conflits. Quand vous êtes sur un marché, vous avez aussi la compétition permanente. Et dans un réseau, pourquoi on échapperait à cela ? Vous avez également des rivalités, des conflits, etc. Sauf que là, ils sont arbitrés par la hiérarchie, ici, par les règles de compétition par le prix, et là, ici, c'est compliqué. Vous n'avez pas un supérieur hiérarchique. D'accord ? Pas plus que dans la communauté européenne, vous avez un pays qui dirigerait les autres. Nous venons de parler de la coopération, abordons la notion de compétition maintenant. Qu'est-ce que c'est que la compétition ? Eh bien, comme vous pouvez le constater sur le tableau, la compétition, c'est une manœuvre stratégique qui se situe à l'interface de la coopération et de l'affrontement. La compétition, c'est à la fois de l'affrontement et de la coopération. On étudie les travaux théoriques. Vous avez une référence à lire, celle de Nalbuff et Bradenberger. Qui ont écrit un ouvrage sur ce sujet en 1995 et qui, les premiers, ont parlé d'une situation économique contre nature. Pourquoi ? Parce qu'ils ont constaté que des formes de partenariat pouvaient exister entre concurrents. Effectivement, de prime abord, ça paraît surprenant. Pourquoi ? Parce que bien souvent dans la littérature en management, le concurrent, c'est entre guillemets l'ennemi à abattre. Pourquoi tendre la main à son ennemi et pourquoi nouer des partenariats avec un concurrent ? Qu'est-ce qui peut justifier et expliquer les phénomènes de compétition qui sont de plus en plus nombreux dans le paysage économique. Donc avant d'entrer dans les explications, ce que signifie l'existence de la compétition, c'est l'idée que les rôles des entreprises sont de moins en moins marqués et que les entreprises occupent des positions et des rôles de plus en plus polyvalents. Autrement dit, une entreprise peut être simultanément client, fournisseur, concurrent ou partenaire d'autres entreprises. Et il n'est pas rare d'assister à ces phénomènes. Donc, de considérer qu'une entreprise serait uniquement partenaire, ou une entreprise uniquement fournisseur, ou une entreprise uniquement concurrent ou client, serait une erreur. Pour survivre et se développer, une entreprise a de plus en plus besoin de changer de rôle et de faire évoluer sa position stratégique à l'égard des autres. Y compris lorsqu'il s'agit des concurrents, en devenant un partenaire potentiel. Et on le voit bien, si vous prenez à l'échelle des pays, vous le voyez bien en géopolitique, où les anciens ennemis d'hier sont les partenaires d'aujourd'hui. Regardez la Chine, regardez la Russie, regardez la Corée du Nord très récemment. Quel pays peut avoir le luxe et le loisir d'être isolé de la communauté internationale? Eh bien, pour les entreprises, c'est pareil. Quelle entreprise peut se permettre le luxe d'être isolé des autres entreprises? Alors, le point de départ de l'explication. L'économie, c'est la guerre. Dans beaucoup d'ouvrages de management classique, on a tendance à opposer les entreprises entre elles, et en considérant que sur un marché ou sur un secteur, les entreprises qui vont dominer vont survivre et vont, d'une certaine manière, se développer. D'ailleurs, il y a des théories sur ce sujet. Vous avez les théories sur l'écologie des populations de Annan et Friedman, qui considèrent que seules les entreprises les plus performantes ou compétitives survivent dans un environnement, et que d'une certaine manière, il y a un processus de sélection naturelle. L'environnement sélectionne naturellement les entreprises qui vont survivre ou se développer. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas tout à fait faux. On va nuancer cette théorie, et notamment en expliquant tout d'abord que l'économie, ce n'est pas toujours la guerre. Pourquoi ? Parce que comme dans un écosystème, vous avez certaines entreprises qui ne peuvent réussir que parce que d'autres vont réussir au même moment. Et comme dans un écosystème, vous avez les animaux les plus imposants de l'écosystème qui ne peuvent survivre que si des animaux plus petits ou plus faibles survivent à leur côté. Donc si vous éliminez en bout de chaîne les animaux les plus faibles, vous perturbez l'ensemble de l'écosystème. Eh bien, je dirais que dans l'économie, c'est un petit peu pareil. Prenons l'exemple d'une rue commerçante. Dans cette rue commerçante, vous implantez un magasin de chaussures. Ou plutôt, non, vous implantez 10 magasins de chaussures. Vous allez avoir un phénomène d'attraction pour les clients potentiels. Pourquoi ? Parce que la rue va être identifiée comme une rue permettant du choix et de la diversité dans l'achat de chaussures. Si vous éliminez 9 de ces entreprises, et s'il n'en reste plus qu'une, eh bien, vous auriez tort de croire que l'entreprise qui reste va dégager autant de volume d'activité que les 10 entreprises réunies au départ, c'est faux. Une fois que les entreprises sont parties, le volume d'activité général baisse. Et même, je dirais que, comme la concurrence était stimulante parce qu'elle attirait des consommateurs, celle qui va rester va voir son chiffre d'affaires baisser plus fortement que lorsqu'il y avait de la concurrence dans la rue. Alors, cette petite histoire amène à réfléchir sur ce point, c'est que la concurrence stimule la demande et que la concurrence est donc également un stimulant pour les entreprises du secteur. Donc réduire la diversité ou réduire la concurrence, c'est affaiblir les entreprises qui vont subsister, qui vont survivre. Donc le problème, ce n'est pas de se retrouver avec une seule entreprise ou 10 entreprises, le problème c'est de trouver un équilibre dans cette concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, le secteur disparaît. S'il y a trop de concurrence, ça peut également affaiblir toutes les entreprises. Prenez une guerre des prix, la guerre des prix peut être un élément dévastateur. Pourquoi ? Parce que dans le cas d'une guerre des prix, chacun va essayer d'entrer dans une logique de surenchère, de diminuer les prix pour lutter contre la compétition, au détriment des marges, jusqu'à la vente de produits à perte et jusqu'à la disparition des entreprises les plus faibles. Donc je dirais, trop de concurrence va, d'une certaine manière, tuer le secteur. Pas assez de concurrence va aussi affaiblir le secteur. Donc le problème, c'est de trouver un juste équilibre et un juste milieu. Et donc, en considérant que l'économie, ça serait à la fois la guerre et la paix. Et pour qu'une entreprise réussisse, il faut qu'elle parvienne à trouver un équilibre relationnel avec ses concurrents. Pour trouver cet équilibre, une des possibilités, c'est la compétition. C'est-à-dire, la recherche d'un jeu à la fois concurrentiel et coopératif. Je reprends l'exemple de la rue commerçante avec 10 magasins de chaussures opposés. Eh bien, qu'est-ce qui peut être intéressant pour ces magasins de chaussures? Qu'est-ce qu'ils partagent en commun, ces magasins de chaussures? C'est la zone de chalandise. C'est l'attractivité de la rue où ils sont implantés. Qu'est-ce qui empêche ces magasins de chaussures de se regrouper en syndicats et de partager des investissements de communication, de publicité sur l'attractivité de la zone? Eh bien, toutes les zones commerçantes dynamiques le font. Et tous les commerçants partagent des investissements, y compris lorsqu'ils sont concurrents dans cette zone. C'est un exemple de compétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces magasins de chaussures peuvent très bien partager des investissements pour attirer davantage de consommateurs, tout en restant opposés, concurrents, lorsque le consommateur arrive dans la rue et à l'embarras du choix. Donc l'une des questions de survie pour ces commerçants, c'est d'être capable d'attirer le plus possible de consommateurs, quitte à s'associer pour cela avec les concurrents pour partager des frais ou des investissements de communication.
Et c'est quoi la différence avec la coopération
Pardon ?
C'est quoi la différence avec la coopération horizontale ?
J'ai pas dit qu'il y avait une différence avec la coopération horizontale. J'ai même dit que c'était la même chose. Compétition ou coopération horizontale, c'est la même chose. C'est-à-dire de la coopération entre concurrents. sur le même maillon de la chaîne de valeur.
Et la coopération, ça va être
ça? Ce que j'ai expliqué, c'est que la coopération en tant que telle, ça englobait tout un ensemble de situations. Verticales, transversales, horizontales. La compétition, c'est une forme particulière de coopération. C'est la coopération entre concurrents. Cela peut se justifier aussi pour certaines entreprises qui recherchent, qui cherchent peut-être à nouer à former une coalition. Prenons l'exemple de la rue commerçante avec les magasins de chaussures. Si dans la ville d'à côté, il existe une rue commerçante aussi avec des magasins de chaussures, eh bien, la vraie compétition, la première compétition, c'est l'attractivité de la ville. Et là, le fait de se regrouper entre commerçants a un enjeu stratégique fort. Donc, la compétition peut consister à réaliser, effectuer une coalition d'entreprises contre une coalition d'entreprises. Autrement dit, une partie de la compétition aujourd'hui se noue à une échelle plus grande que l'échelle de l'entreprise seule. Elle va se nouer entre plusieurs entreprises d'un même secteur ou entre un secteur et d'autres secteurs d'activité. Et donc, la compétition, de ce point de vue-là, permet de gagner en taille et d'être plus compétitif, bien évidemment. Donc là aussi, ce que recherchent les entreprises qui pratiquent la compétition, c'est la valorisation de leur complémentarité. Autrement dit, il existe, même quand on est concurrent, il peut exister des complémentarités à valoriser. Et là aussi, je suis sûr que vous avez des centaines d'exemples en tête. Grâce à vos lectures régulières des journaux, des magazines économiques, des ouvrages en bibliothèque. Vous avez par exemple dans le secteur automobile de nombreuses formes de compétition. Prenez le rapprochement entre Peugeot et Fiat, la réalisation du monospace. Ou plus dernièrement, dans la réalisation des véhicules 4 roues motrices.
Non, je ne sais pas.
Vous avez donc dans l'automobile la valorisation de ce qu'on appelle des synergies additives. Des synergies additives, c'est-à-dire une complémentarité qui est basée sur le fait que l'on va regrouper des compétences ou des capacités de concurrents, compétences ou capacités qui peuvent être proches, mais qui vont permettre de réaliser des économies d'échelle. Il peut s'agir aussi, pour certains concurrents, de se regrouper afin de définir une norme technologique. Si vous analysez, par exemple, la bataille sur le lecteur DVD du futur, sur le DVD haute définition, Aujourd'hui, encore, vous avez deux technologies qui s'affrontent. La technologie Blu-ray et la technologie HD-DVD. Technologiquement, ces deux normes sont très proches. Et le consommateur est donc confronté à un choix cornélien pour savoir comment investir ou acheter dans un appareil qui est censé renouveler le lecteur de DVD actuel comme le lecteur de DVD a renouvelé le lecteur magnétoscope VHS. Donc il y a à peu près autant d'écart technologique à chaque fois. C'est-à-dire que demain, le DVD haute définition sera la norme dominante au détriment des anciennes technologies. On voit bien que la bataille des normes, elle va être gagnée sur quoi ? Sur la force des alliances entre concurrents. Pourquoi ? Parce que c'est la force des alliances entre concurrents qui va convaincre le consommateur, qui va chercher à convaincre le consommateur. Et donc, cela ne sert à rien aujourd'hui que les entreprises du secteur électronique entrent dans une concurrence frontale d'image ou de prix, tant que la norme technologique ne sera pas adoptée et dominante. Donc la vraie bataille actuellement dans le DVD HD, c'est une bataille de normes. Et pour gagner cette bataille de normes, les entreprises ont besoin de s'associer, de se regrouper. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, ce n'est pas entreprise par entreprise, c'est au niveau du secteur tout entier. Parce qu'une fois que vous aurez défini la norme, ou que la norme sera définie, toute la réalisation de produits, produits dérivés, etc., découlera de cette définition de la norme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un consommateur qui achète un lecteur DVD HD, il n'est pas sûr du tout que son lecteur DVD HD ne sera pas obsolète dans 6 mois ou dans 1 an, si la norme technologique aura disparu d'ici là. Donc on voit bien aussi que la compétition, c'est une manière de modifier les règles de la compétition. Et pour modifier les règles de la compétition, on ne peut le faire réellement que si on se regroupe à plusieurs. Une entreprise seule, à elle seule, ne peut pas modifier les règles de la compétition. Elle peut le faire si l'ensemble des concurrents, ou une grande partie des concurrents, adhèrent à ce projet. Donc la compétition peut se justifier dans ce cas de figure. Pourquoi ? Parce que pour l'entreprise qui s'engage dans cette voie, c'est réduire les incertitudes. C'est réduire les incertitudes. S'il n'y a pas de coalition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque entreprise va investir en recherche-développement dans son coin, définir des supports non compatibles, au risque de déstabiliser complètement le consommateur, et d'investir à perte. Donc bien évidemment, l'entreprise, quand elle prend une décision stratégique, c'est pour réduire les risques. Et pour réduire les risques, quel est le risque majeur auquel elle est confrontée ? C'est le risque lié à la compétition. Donc s'associer avec des concurrents, c'est réduire l'incertitude de la compétition. C'est connaître les manœuvres et les comportements de son concurrent. C'est comprendre qu'il a les mêmes problèmes au même moment. C'est partager donc des soucis et des solutions ensemble. Donc la compétition, elle n'élimine pas la concurrence. D'accord ? Si je prends l'exemple de la bataille des normes, c'est pas parce que Sony, Philips se regroupe pour définir une norme contre Toshiba et Samsung, par exemple, que Sony et Philips perdent leur image de marque ou leur volonté de sortir, de lancer des lecteurs DVD-HD sous leur propre enseigne. Mais c'est une étape indispensable pour protéger et préparer la compétition. Alors, un autre intérêt aussi important, c'est aussi de considérer s'il n'existait pas de possibilité de rapprochement entre les concurrents, et si la compétition se déroulait jusqu'au bout, quel serait l'avènement de la compétition sur un marché ? Ben, vous prenez une entreprise, ici, et bien, là vous prenez le marché, et bien, elle a des possibilités de développement sur le marché jusqu'à ce que ses propres frontières se confondent avec les frontières de l'entreprise. Et là, on est dans ce qu'on appelle une situation de monopole. C'est-à-dire qu'à la limite, si la compétition se déroule sans règles, sans possibilité de rapprochement, sans ajustement, avec des possibilités de trust, de cartel, de position dominante, on peut arriver à un moment donné à une situation de monopole non naturel. C'est-à-dire d'entreprise qui proposerait une offre unique sur le marché, avec une part de marché de 100%, une publicité inutile et gratuite, car l'offre créerait la demande. Ce ne serait plus la demande qui pèserait sur l'offre, c'est l'offre qui déterminerait la demande. Donc avec un consommateur otage des décisions ou des pseudo-décisions de l'entreprise. Et puis surtout, avec, dans le temps, une première étape, le monopole, deuxième étape, une réduction de la taille du marché. Pourquoi ? Parce que moins il y a de diversité, moins l'entreprise va faire d'efforts pour renouveler sa gamme de produits et de services, moins la demande sera attirée par le marché, plus le marché va commencer à se réduire. Et moins il y aura aussi de possibilités de création de richesses et de redistribution de richesses dans la société via les pouvoirs publics. Donc c'est une situation qui, à terme, est nuisible à la fois aux consommateurs, certes, mais à l'entreprise en monopole et à la société en général. Oui ? Question ? Oui ? Oui ?
Dans le secteur de l'économie, particulièrement des bénéfices informatiques, hein, on a observé une situation presque, je dirais, presque linguistique de fait se développer, notamment à travers Intel, qui fournit à l'ensemble des constructeurs ces microprocesseurs. Alors, si on compare à cette situation-là, pourquoi les développements qui sont liés à son avance technologique ?
Bon, prenons. Ça vous ennuie pas ? Vous concentrez encore ? Vous êtes fatigué ? Fin de semaine ? C'est dur ? Dans un an, vous êtes en entreprise. Bon, la question de votre camarade est tout à fait pertinente et intelligente. Donc, bien entendu, je vais y répondre, mais pourquoi ne pas passer la parole aussi à vos camarades ? Vous avez envie de parler ? Répondez à cette question qui est vraiment pertinente.
Je crois que j'ai bien terminé la question.
Vous pouvez répéter la question ?
La question, ça concernait la situation d'Intel sur le marché de la microinformatique et en tant que fournisseur de microprocesseurs, étant donné qu'il est presque une situation de monopole liée à son avance technologique. Je voulais comprendre un peu la situation d'Intel par rapport à cette situation-là qui pourrait lui nuire à terme.
Ah.
savez, c'est tout à fait le genre de question qui pourrait être posée lors d'un examen, pourquoi pas de stratégie, pourquoi pas dans le master 1 sur du management. Pourquoi pas poser des questions intelligentes en examen qui poussent les étudiants à réfléchir. S'il y a un lieu où on doit réfléchir, c'est bien l'université, je pense. Alors, pour répondre à votre interrogation, Intel est un fournisseur de composants électroniques qui interviennent dans les ordinateurs personnels. Est-ce que le consommateur est privé de choix ou fonde son choix uniquement sur le processeur quand il compare les offres de Dell, Compaq, Sony, etc. Ça, c'est le premier point. A priori, non. Même si le processeur compte énormément dans la valeur ajoutée. Mais il y a des aspects d'image, de réseau, de coût qui interviennent. Donc je dirais même que les enjeux de compétition pour ces entreprises, c'est même plus le processeur, c'est ce qui va exister autour du processeur. Puisque le processeur sera identique, donc la compétition va se dérouler sur d'autres aspects. Là où ça pourrait être préjudiciable, à la fois à Intel et au secteur informatique, c'est si Intel est dans une situation d'abus de position dominante. Et par son poids sur le marché, dicte des conditions tarifaires ou de négociation à toutes ces entreprises. Parce que à ce moment-là, ces entreprises vont avoir moins de possibilités d'investir, se démarquer et séduire le consommateur, parce qu'elles seront contraintes par Intel. Je dirais que le risque le plus grand, c'est si à un moment donné, Intel entre sur le marché et intègre la réalisation des ordinateurs. Là, on pourrait le taxer de concurrent déloyal. Pourquoi ? Parce qu'il proposerait des ordinateurs avec ses propres puces. Il aurait beau jeu de dire à ses concurrents, bah, si vous voulez acheter des puces électroniques, vous aurez une génération de retard, ou alors ça va vous coûter plus cher. Et donc, je serai toujours en position dominante sur le marché. Et là, effectivement, ça finirait par tuer le secteur et la diversité. Et très certainement, les pouvoirs publics interviendraient pour... régulé avant la mort annoncée du secteur. Donc voilà, pour répondre à votre question, Intel n'est pas dans ce contexte-là. Et par ailleurs, il existe encore quelques alternatives sur la réalisation et la production de puces électroniques. Donc on ne peut pas parler à proprement parler de monopole complet, quoi. Monopole complet. Bon. Monopole complet, c'est sur un marché une offre unique. Une marque unique, un produit unique. D'accord. Oui.
Oui, je voulais intervenir aussi par rapport à la question. Ouais. C'est-à-dire, ce qu'il a proposé, même si Intel arrive à être unique sur le marché, il a intérêt à coopérer aussi par les autres fabricants, puisque si ces processeurs ne sont pas compatibles avec les d'autres caractéristiques de l'ordinateur, du coup l'ordinateur ne pourra pas marcher. Donc il n'a pas intérêt aussi à proposer des produits plus innovants, mais qui seront en désaccord avec les autres composants de l'ordinateur.
Oui, il y a aussi tous les développeurs, effectivement, toute la communauté des développeurs dont on n'a pas parlé, et qui accompagnent le progrès par la réalisation de logiciels. Et ça dépend du niveau technologique des processeurs. Par exemple, l'alignement d'Apple sur le microprocesseur Intel, c'est surtout un phénomène intéressant dans le travail des développeurs. Alors qu'avant, il n'y avait pas de compatibilité entre les logiciels, il fallait développer spécifiquement pour le monde Mac ou PC, avec... cet alignement, les développeurs vont pouvoir travailler indifféremment pour Mac et PC, ce qui va leur permettre de gagner en économie d'échelle, en économie d'éventail. Mais c'est vrai que les développeurs ont leur rôle, et on peut imaginer aussi que l'abus de position dominante peut se dérouler à l'égard d'eux. C'est un peu le problème qui était évoqué avec Microsoft, lorsque Microsoft a été à deux doigts d'être démantelé par la commission du antitrust aux États-Unis, parce que, d'une certaine manière, Microsoft imposait des décisions stratégiques aux acteurs sans communiquer sur son code source ou sans dévoiler d'informations qui auraient pu aider les développeurs ou les entreprises à anticiper ou à investir ou à éviter de tomber dans cette situation d'abus de position dominante. Donc, pourquoi je vous ai pris l'exemple du monopole ? Parce que la compétition, si vous avez un travail de compétition entre les entreprises, eh bien, cela permet d'éviter l'apparition d'une situation de monopole. La compétition va maintenir un niveau de compétition entre les concurrents sans forcément que les concurrents disparaissent du secteur. Donc la compétition, paradoxalement, le rapprochement entre les concurrents peut préserver un niveau de concurrence, une diversité dans l'offre. Et on peut imaginer que la compétition, l'affrontement direct, etc., lui va avoir plutôt l'effet inverse. Bon, le problème de la compétition, c'est qu'elle est complexe à gérer, il peut y avoir des conflits, et puis surtout, ça peut dériver après vers des formes d'entente, dont on parlera tout à l'heure, qui peuvent être aussi préjudiciables. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la compétition, je vous conseille de lire les travaux de deux professeurs d'HEC, Garrett et Dussauge. Donc c'est pas, ils parlent pas de la matrice de la découverte, je vous rassure tout de suite, mais leurs travaux sont quand même édifiants. Et ils parlent des types d'alliances entre concurrents